L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Félicité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Mes amis, ce matin, je vais encore vous conduire dans le psaume 23. J'ai la joie de pouvoir partager la parole avec vous et j'espère vous emmener jusqu'au bout dans ce merveilleux chemin du psaume 23. C'est David qui l'a écrit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis comme une brebis, au bord d'un pâturage, j'ai à manger. Au bord d'un courant d'eau, j'ai de l'eau. Je peux étancher ma soif. Je suis rassasié. L'Éternel, le berger, restaure mon âme. Je suis dans la paix, je suis bien. Je suis repu comme un enfant sevré auprès de sa mère. Pareil. J'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Il restaure mon âme. Je suis dans une paix profonde, en sécurité, apaisée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. L'Éternel est mon berger à cause de son nom. David a l'impression, enfin donne l'impression de connaître l'Éternel, ce berger. Il sait qui c'est puisqu'il dit à cause de son nom. Et quelque part, on aimerait en savoir plus, mais alors, ce nom, c'est éternel? Est-ce que le prénom de Dieu, c'est éternel? L'Éternel, mais il y a un article devant l'Éternel. À cause de son nom, qui? Quel est ce nom? Eh bien, la première révélation du nom de Dieu, c'est Moïse qui l'a reçu. Moïse, bien avant David. Environ 450-500 ans avant David. Et on trouve cette révélation dans Exode 3. Je vais vous lire à partir du verset 1. Mais pour le contexte, c'est quand Moïse, c'est un fils d'Hébreu, mais qui a été élevé par la fille de Pharaon en Égypte. Et il est né alors que son peuple, les Hébreux, était esclave en Égypte. Et lui, à un moment donné, il avait 40 ans, il savait qu'il était hébreu, il vivait parmi les Égyptiens, et il a vu un homme hébreu se faire malmener par un Égyptien. Et en voulant lui porter secours, il a tué l'Égyptien. Et du coup, il ne s'en est pas sorti indemne, il a dû fuir. Il a fui dans le désert, hors de l'Égypte, et il est devenu berger. Et là, ça fait un bon bout de temps, ça fait quelques décennies qu'il est berger. Et il fait une rencontre avec Dieu. Une rencontre bien étonnante. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est ses grandes visions, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Moïse a fait une rencontre étonnante avec Dieu. Et à ce moment-là, après ce passage, Dieu lui dit, « Je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple, les Hébreux, des Égyptiens. Va trouver Pharaon et dis-lui qu'il doit faire sortir mon peuple d'Égypte. » Alors vous imaginez, Moïse il est en fuite, et retourner vers le Pharaon, c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire. Donc il trouve toute une kyrielle d'arguments pour dire « Mais non, mais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, je suis pas la bonne personne, trouve quelqu'un d'autre. » Seulement ça se passe pas comme ça. Mais quelque chose nous dit sur le nom de Dieu. Parce que un des arguments que Moïse a trouvé, il se trouve au verset 13, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. » Voilà mon nom de génération en génération. Dieu est en train de se révéler à Moïse. Moïse, il savait qu'il était hébreu. Il savait de quel peuple il faisait partie, mais il ne connaissait pas vraiment son Dieu. Il avait entendu parler d'Abraham, Isaac et Jacob, mais il n'en savait pas beaucoup plus. Donc l'Éternel, Dieu, c'était quelque chose de connu. Mais pour savoir qui est vraiment ce Dieu, ça, il ne le savait pas, il avait besoin d'une révélation. Et en fait, là, dans ce passage, Dieu lui donne une étymologie de son nom. Parce qu'il lui dit, tu diras, je suis celui qui suis. Ou, ça veut dire en français, je suis celui qui est. Mais en fait, ces particules, je suis celui qui suis, ces mots en hébreu, quand on les met ensemble, quand on les colle ensemble, en fait, si on les contracte, ça donne « Je suis » et ça donne « Yahvé ». Yahvé, c'est ce nom que les Juifs encore actuellement ne prononcent pas, ils disent « Adonai »,« Seigneur » à la place, parce qu'il est écrit dans la loi « Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain ». Donc la peur de prononcer ce mot « Yahvé » en vain, fait qu'ils disent Adonai ou le nom. Maintenant, pourquoi c'est important? Dieu se révèle en disant « Mon nom, c'est Je suis ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Proche-Orient ancien, quand on donnait un nom à quelqu'un, c'était pas comme on en a l'habitude en Occident. Maintenant, on donne un nom, c'est pour identifier la personne. Si je vous dis Paul, Jacques, Julie, il y a des visages qui viennent. Ça vous donne, vous savez que c'est une personne qui est grande, petite, qui habite à tel endroit, etc. Vous vous souvenez de son visage, vous savez peut-être quel âge a cette personne. Ça vous permet de l'identifier. Mais dans le Proche-Orient ancien, quand on donnait un nom à quelqu'un, en fait, ce nom, il parlait de sa nature. Il avait une signification qui était vraiment lourde de sens, lourde d'implication. Le nom d'une personne, ça parlait de sa destinée ou alors de la destinée d'un peuple. Donc en fait, ça avait une signification extrêmement profonde. Ça parlait de sa personnalité, de son caractère. Ce qui fait que quand on était en relation avec une personne, quand quelqu'un nous dit son nom, on est en relation avec l'implication que veut dire ce nom. Donc quand Dieu dit à Moïse « Mon nom », Éternel, Dieu, mon nom, c'est Yahvé qui veut dire « Je suis ». Directement, il se met en relation avec Moïse et directement, cette implication de « Je suis », elle touche la vie de Moïse. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est que déjà, Dieu est en train de dire « Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, Jacob. Ces trois générations, des longues générations, parce qu'ils ont vécu longtemps. En fait, ce Dieu, il est toujours vivant, de génération en génération. Et Moïse, il vient bien après Jacob. Mais Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc en fait, Dieu, il est intemporel. Il vit de toute éternité. Il est ce Dieu-là qui était vivant au moment de la création, puisque c'est lui qui a créé toute chose, mais il est toujours vivant, maintenant, et il vit dans le temps présent. Il n'a pas dit « j'étais, je suis, je viens » ou « je serai », il a dit « je suis ». Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Ce Dieu, c'est le Dieu de toute éternité. Il y a quelque chose d'encore plus fort. Mais j'aimerais revenir au psaume 23. David, il dit « l'Éternel est mon berger ». Et quand il dit « l'Éternel », il dit « Yahvé est mon berger ». Donc en fait, il dit « je suis et mon berger ». Il l'a compris, les implications du nom de Dieu, David, il les a compris, il se les est appropriés. Et c'est pour ça qu'il peut dire qu'il est mon berger, que je ne manquerai de rien, qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais il va plus loin. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qui est-ce qui donne la justice ? Nous ne pouvons être justifiés que par Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a justifiés, qui nous a justifiés du péché. Il nous a lavés de notre péché et à cause de ça, on est justifié, on peut se présenter devant Dieu sans crainte. On ne pourrait pas, sans l'action de Jésus, on ne pourrait pas. Donc quand David il dit « il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom », à son époque, il ne pouvait pas encore connaître Jésus, donc il prophétise. Et si on va voir dans les évangiles comment Jésus parlait de lui, on n'a pas le temps de parler de comment Jésus parlait de lui, mais il y a deux passages en particulier. Souvent Jésus disait « ego eimi », c'est écrit comme ça en grec, dans le texte grec, « ego eimi », ça veut dire « je suis ». Mais en fait, Jésus ne parlait pas en grec, il parlait en araméen et il parlait au peuple hébreu. Et dans Jean 8, à un moment donné, il y a des juifs qui lui cherchent un peu des poux. Et voilà une conversation qu'il a avec eux. Je lis dans Jean 8, à partir du verset 56. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Avant qu'Abraham fût, Yahvé. Et un autre passage, où c'est encore plus fort, c'est dans Jean 18, à partir du verset 4. Jésus est dans le jardin de Gethsémané où il agonise parce qu'il sait qu'il va se faire crucifier. Il sait qu'il va prendre le péché du monde sur lui. Je ne fais pas l'histoire du salut. Il est en train d'agoniser parce qu'il sait ce qui lui arrive. Et les gardes arrivent pour l'arrêter. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « c'est moi. » Jésus leur dit, « je suis. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Quand ils sont venus l'arrêter, dans nos Bibles, il y a marqué, « c'est moi », parce que c'est comme ça qu'on parle en français. Mais Jésus a dit, « je suis ». Jésus a dit, « Yahvé ». Et quand il a dit, « Yahvé », je suis, en fait il a révélé son identité divine et ça a tellement effrayé les gardes qui étaient armés jusqu'aux dents qu'ils sont tombés à la renverse. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Une armée est tombée par terre parce que Jésus a dit « je suis ». Voilà pourquoi c'est tellement important la révélation que Moïse a reçue. Quand Dieu lui dit « je suis celui qui suit », il dit « je suis ». il parle aussi déjà de Jésus. Parce que dans le buisson ardent, c'est à ce moment-là, hein, toute cette conversation, quand Dieu révèle son nom, il y a ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. En fait, on a déjà la présence du Père, le Père créateur, le Père qui a un plan de restauration, de rédemption pour l'humanité. Et il y a déjà la présence de Jésus. Jésus qui existe de toute éternité et qui fait pleinement partie de ce plan, qui à un moment donné s'est incarné pour venir nous rencontrer sur la terre et qui est retourné au ciel. Jésus était déjà là, il est présent, pleinement présent dans ce nom, dans le nom de Yahvé, dans le nom de Dieu. Et le Saint-Esprit est présent là aussi parce que si le Saint-Esprit n'avait pas permis à Moïse d'ouvrir ses yeux spirituels pour voir ce qui se passe, s'il n'avait pas permis que ses oreilles entendent la voix, Moïse n'aurait pas pu recevoir cette révélation. La révélation, elle vient toujours du Saint-Esprit. Donc déjà là, au moment où Dieu révèle son nom, l'implication de son nom, il est Père, il est Fils, Jésus-Christ, et il est Saint-Esprit. Et là, on est dans l'Ancien Testament, avec Moïse, au début de l'histoire du peuple hébreu. Et David, il connaît ce nom-là, il sait qui est ce « je suis », il a compris que c'est un Dieu qui pourvoit, il a compris qu'il restaure son âme, il a compris que ce Dieu, il le justifie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que cette vallée de l'ombre de la mort fait là? Si on en croit cette histoire, par rapport à ce que nous vivons et par rapport à ce que David a compris, mais surtout nous, aujourd'hui, est-ce que la vallée de l'ombre de la mort, elle a sa raison d'être? Nous savons qui est l'Éternel, nous connaissons le Père, nous connaissons Jésus, nous avons été justifiés par lui, si nous l'avons reçu, nous avons compris qu'il est mort pour nos péchés et que nous le prenons comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous conformons notre vie à lui. Nous sommes justifiés, nous sommes sauvés. Alors, pourquoi une vallée de l'ombre de la mort? La vallée de l'ombre de la mort, c'est un endroit hostile, c'est un endroit sombre, c'est un endroit de ténèbres, c'est un endroit de vide, c'est un endroit d'angoisse, c'est un endroit de manque. Et en fait, une vallée, elle se trouve entre deux montagnes ou entre deux collines. La vallée, c'est un creux dans la nature. C'est un creux et en fait, la vallée, c'est le fond du creux. Quelque part, une vallée, elle est confinée. Voilà, j'ai dit le mot. Ce mot qu'on ne peut plus entendre, ce mot qui nous ressort par tous les pores. Heureusement, on entend de plus en plus parler de déconfinement, mais pour l'instant, on est confiné. En Suisse, on a de la chance, parce que c'est pas tout à fait ça. Chez nos voisins, c'est autre chose. Et moi, ça me touche. Ce qu'ils sont en train de vivre en France, ça me touche énormément. C'est pas le propos ici. Nous, on a de la chance. On est en semi-confinement. Mais malgré ce semi-confinement, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des angoisses. Il y a de la solitude. On est fatigué d'être obligé d'utiliser les moyens technologiques. Et on se rend compte qu'ils vont se développer de plus en plus. Ça, rien que d'y penser, ça fait déjà mal aux yeux. Ça fait déjà mal à la tête. Et il y a les problèmes des salaires, des revenus, de l'emploi, il y a toutes ces problématiques-là, la peur de choper une maladie, de choper ce fameux virus. Enfin, je vais pas tout énumérer, je crois qu'on en parle assez depuis toutes ces semaines. Mais c'est une vallée de l'ombre de la mort. Et ce que je trouve magnifique, c'est que David y dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. » Qu'est-ce que ça veut dire? Même qu'on est dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort, David, il repère le bâton, il repère la houlette de son berger, parce qu'il le connaît. Alors il sait le distinguer, même dans l'adversité. Et Moi, je crois que ce que nous sommes en train de vivre maintenant ici, c'est une occasion que Dieu nous donne pour qu'on apprenne encore plus à le connaître, mais surtout pour qu'on se pose la question, est-ce que je connais mon berger? Est-ce que je connais le grand je suis? Est-ce que j'en ai fait mon Dieu? Est-ce que je sais reconnaître sa voix? Quand j'ai pas accès à tout ce dont il me semble j'aurais besoin, est-ce que j'ai encore ces eaux paisibles? Est-ce que j'ai encore ces verts pâturages? Est-ce que le fait qu'il restaure mon âme, c'est suffisant pour moi? Est-ce qu'il réussit à restaurer mon âme? Est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je me laisse conduire par lui? Est-ce que je reconnais sa houlette? Est-ce que je reconnais son bâton? Est-ce que j'ai reçu la révélation de l'implication de son nom dans ma vie? Il y a eu beaucoup d'appels à la prière et au jeûne depuis qu'il y a eu ce confinement, et je pense que c'est une bonne chose. Mais ça m'interpelle quand même parce que prier et jeûner, c'est ce qu'on est censé faire de toute façon, toute la vie. Enfin, je ne parle pas d'un jeûne 24-24 toute la vie. Mais jeûner et prier, ça doit être un style de vie. Alors, je suis la première à dire que c'est difficile. Il y a des gens dans mon entourage qui arrivent beaucoup mieux que moi. Mais je sais que c'est ce qu'il faut faire. Je sais. Alors, prier, oui, bien sûr. Prier, jeûner, oui, bien sûr. Mais là où j'ai été interpellée, c'est d'entendre en fait les craintes qu'il y avait derrière cet appel à la prière, parce que les sujets qui étaient proposés, c'était de prier par rapport à l'économie ou contre le coronavirus. Et je me dis, ben, en tant que Suisse, en fait, on a tellement craint pour notre économie. Bien sûr que c'est difficile, mais il y a des pays qui n'ont pas tous les milliards que nous avons. Et voyant ça, en fait, ça montre où est-ce qu'on en est. En fait, la motivation de notre prière, c'est la crainte. Alors qu'en fait, on devrait peut-être plutôt se repentir. On devrait plutôt se dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment je connais ton nom? Si je suis dans la crainte, c'est parce que j'ai jamais pris le temps de vraiment bien te connaître. Ou alors que je bataille tellement que je n'y arrive pas. En fait, moi, je crois que ces appels à la prière, ils sont bons. Et que si on a des craintes, on doit pouvoir les donner au Seigneur. Et même, c'est légitime. Mais ce confinement que le Seigneur permet, à mon avis, il nous sert surtout à nous repositionner pour nous dire, mais j'en suis où? Moi, j'en suis où? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour connaître mon Seigneur? Pour le connaître vraiment, pour reconnaître sa houlette, reconnaître son bâton, pour ne pas craindre dans l'adversité. Parce que vous savez, on parle de déconfinement. Et tant mieux, tout le monde se réjouit. Moi, je me réjouis. Je me réjouis surtout de voir du monde, de vous revoir. Parce que, voilà, je veux bien prêcher dans ma chambre, mais je préférerais vous voir en chair et en os, qu'on soit tous ensemble, qu'on se réjouisse, qu'on fasse un bon repas. Moi, je me réjouis de ces moments-là. Mais j'espère que ça va arriver. Et si ça arrivera, je ne sais pas si c'est pour du long terme. Parce que je sais qu'il peut y avoir une nouvelle vague de coronavirus. Je sais qu'il peut y avoir d'autres choses. Jésus l'a dit, ça fait partie de tout ce qu'il a annoncé qui allait arriver quand il parlait que c'était le commencement des douleurs. Mais on sait que les douleurs de l'accouchement, elles se rapprochent toujours plus. Et il parlait de famine, il parlait de peste, il parlait de tremblements de terre, il parlait de guerre, toutes ces choses-là, on les entend, et on les entend de plus en plus, ça se rapproche, c'est toujours plus violent, c'est toujours plus rapproché, les vagues se rapprochent. Alors, peut-être qu'on sera de nouveau confiné. On va se déconfiner, mais pour combien de temps? Et moi, il y a un autre confinement auquel je pense, à plus large échelle que le coronavirus. Vous savez, je crois que notre passage sur la terre, c'est un confinement, c'est une sorte de confinement. Parce que rien que d'être dans ce corps mortel, dans ce corps qui vieillit, qui est soumis au processus de vieillissement, ce corps qui peut tomber malade, ce corps qui a des fragilités, ce corps qui a des douleurs, et rien que d'être dans ce corps qui est limité, je suis confinée dans mon corps, je ne peux pas faire tout ce que je veux. J'aimerais danser, j'en suis incapable ou tellement pas bien. J'aimerais chanter, ça sort pas comme je veux, je suis confinée. Tout mon être aimerait s'exprimer au travers de mon corps. Je ne peux pas le faire comme je l'aimerais parce que je suis confinée. Mais en plus de ça, je suis confinée sur la terre. Je suis confinée sur la terre, je suis confinée dans ce monde où je suis incapable de faire le bien. Je fais le bien, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Je suis incapable de ne pas pécher, je suis incapable de faire les choses toutes bien, de faire les choses justes, de ne jamais blesser personne, je ne suis pas capable. Nous ne sommes pas capables. Alors oui, nous avons été justifiés par Jésus, bien sûr, nous avons été sauvés, mais tant que nous sommes dans ce corps, tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes toujours soumis à l'esprit du monde, à l'esprit du péché, parce qu'il est là sur terre. Donc en fait, notre confinement, celui du coronavirus, peu importe qu'on soit déconfiné, on est toujours confiné et on attend le déconfinement, avec un L majuscule et un D majuscule. Le peuple des Hébreux en Égypte, il était confiné aussi. Et c'est pour ça que Dieu appelle Moïse. Dieu dit, Exode 3, à partir du verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, et les Héthiens, les Amoréens, etc. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » L'Éternel a vu. L'Éternel a vu que le peuple était confiné. Et c'est pour ça qu'il veut le délivrer. On entend parler du déconfinement et je pense qu'il faut qu'on s'y prépare. Comment est-ce qu'on va vivre après ce temps de confinement ici à cause du coronavirus? Et qu'est-ce qu'on peut voir dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut voir prophétiquement par rapport au prochain déconfinement? Par rapport à notre sortie de ce monde-ci. Eh bien, pour les Hébreux, ça ne s'est pas fait d'un coup. Sortir du déconfinement, ça ne s'est pas fait d'un coup. Et par rapport au coronavirus, ben on voit que c'est pareil. On va d'abord ouvrir un peu les écoles, mais pas toutes. On va ouvrir quelques commerces, mais pas tous. Et puis les petits, puis les grands. Puis en fait, non, ben pour finir quand même pas. Et puis enfin, bref, on ne sait pas comment ça va se passer. Pour les Hébreux, il a fallu 10 plaies en Égypte pour pouvoir en sortir. Et ces plaies, ça a pris du temps. Et il y avait une raison. Il y avait une raison, et je vous lis déjà, toujours dans l'Exode, au verset 18. C'est Dieu qui parle à Moïse, qui est toujours en train d'expliquer le plan, dit « Ils écouteront ta voix ». Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Promets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc Dieu, il sait très bien ce qui va se passer. Et il dit, je sais que le Pharaon ne vous laissera pas aller. Et voilà ce que je vais faire. Et ce qu'on peut lire dans les textes plus loin, quand les plaies d'Égypte ont vraiment lieu, c'est Dieu aussi qui endurcit le cœur de Pharaon. Mais pourquoi est-ce qu'il endurcit le cœur de Pharaon? Il avait la capacité de faire sortir ses Hébreux tout de suite. Pourquoi? Eh bien, on est toujours à la même chose. Parce que le peuple ne connaissait pas Dieu. Ils ne connaissaient pas ce nom, ils n'avaient pas compris qui il était. Et il fallait qu'ils le voient à l'action. Alors pourquoi est-ce que le peuple ne connaissait pas l'Éternel? Dans Exode 4, les versets 2 à 6, il est dit, l'Éternel lui dit, « Qui a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Ah non, pardon, je vais aller plus loin. » c'est pas dans Exode 4, c'est dans Exode 6, pardon, excusez-moi, au verset 2, Exode 6. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, donc sous mon nom, je suis, Yahvé, je n'ai pas été reconnu par eux. » Dieu est en train de dire à Moïse, mon peuple hébreu, auquel tu vas aller parler pour dire « je vais vous sortir de là », ne m'a pas encore connu sous le fait que je suis. Donc ils ne connaissent pas ma puissance, ils ne savent pas que je vis au siècle des siècles, ils ne savent pas que c'est moi qui suis maître de l'histoire, que c'est moi qui décide de tout, et que c'est moi qui peux endurcir le cœur de Pharaon ou pas. Alors, je vais faire des prodiges pour qu'ils puissent me voir à l'œuvre, et qu'enfin, ils croient et qu'ils aient confiance. David connaissait la houlette et le bâton de l'Éternel. Et il pouvait même dire « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » David, il connaissait tellement son Dieu. Il était rempli de Dieu. Il était rempli de lui. Il était tellement inspiré. C'est ce qui lui a permis de prophétiser et de faire des psaumes prophétiques. C'est ce qui lui a permis de gagner des batailles. Les Hébreux ne connaissaient pas Dieu. Et nous? Nous qui sommes dans cette vallée de l'ombre de la mort, est-ce que nous connaissons assez Dieu pour avoir envie de son retour? Est-ce que nous sommes prêts à ce que Jésus vienne nous chercher? C'est des sujets où je sais qu'en général, on n'aime pas en entendre parler. Le problème, c'est que les jours de brouillard, si on ne croit pas au soleil, ça n'empêche pas le soleil d'exister. Et ça ne l'empêche pas de brûler. Une fois, moi, je suis allée faire du ski dans les Grisons. J'étais adolescente, j'ai été invitée. Et je suis allée une journée faire du ski. C'était juste magnifique. C'était des super grandes pistes, enfin voilà. Mais il y avait un brouillard toute la journée. On n'a pas vu le soleil. Et j'ai pas mis de crème solaire. Heureusement que j'ai pas été prise en photo. J'ai dû mettre des tomates sur mon visage le soir pour essayer de calmer l'inflammation, tellement c'était fort. C'était pas beau à voir et c'était douloureux. On peut ne pas aimer entendre parler du retour de Jésus, mais ça va pas empêcher le retour de Jésus d'arriver. Et c'est pour bientôt. Parce que les vagues, ces contractions que Jésus nous a annoncées, elles sont toujours plus rapprochées. On le voit. Il suffit de regarder ce qui se passe, regarder les médias, regarder ce qu'on est en train de vivre. De plus en plus, ça se rapproche. Jésus, il est à la porte. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce confinement, ça nous montre où est-ce que j'en suis. Si je suis angoissée, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que je dois vivre avec le Seigneur parce qu'il a la capacité de restaurer mon âme. Il a la capacité de me redonner la paix. Je crois que ce temps, il est prévu pour nous aider à nous préparer. Si je me rends compte que je ne connais pas assez mon Dieu, eh ben, c'est parce que je dois passer peut-être plus de temps dans sa parole ou recevoir une révélation de sa parole. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Donc en fait, on a tout. Il dresse une table devant nous, on a tout pour gérer ce qu'on est en train de vivre, on a tout. On a le sacrifice de Jésus-Christ, ça c'est la table, c'est son repas qu'il nous a offert, c'est toute l'œuvre à la croix qui nous garantit le salut. Mais on a aussi cette table où on pose les plans de gestion. Tout ça, la gestion de notre vie, la gestion de ce qui se passe ici, la gestion de la création, ce que Dieu nous a donné, tout ça on l'a à notre disposition. Et moi, je me disais, eh bien, pendant ce temps de confinement coronavirus, hein, pas confinement sur la Terre, j'aimerais qu'on se mette au défi. J'aimerais qu'on se lance un défi les uns les autres. Et moi, je vous le lance et je le relève aussi. Je veux le relever parce que j'en ai vraiment besoin. C'est de, pendant ces temps, même qu'il y a un déconfinement qui vient, mais toutes ces semaines qui nous séparent du moment où on pourra se voir tous ensemble, eh bien, je veux mettre quelque chose en place pour que ma vie de prière, ou ma compréhension de la parole, ou ma vie spirituelle, ma relation avec Dieu, quelque chose de ces domaines-là change. que j'ai des déclics, que j'ai quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, qui me fasse appréhender le retour de Jésus avec de la joie, avec de l'espérance, avec de l'impatience. Moi, je vous mets au défi de mettre quelque chose en place pour mieux connaître Dieu. Vous le connaissez déjà, mais d'aller à l'étage supérieur, palier supérieur. Et quand on se retrouvera tous, eh bien qu'on puisse se raconter qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu, qu'est-ce que tu as compris dans sa parole, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie de prière. Voilà, moi, c'est un défi que j'ai déjà commencé de relever, mais je vous le lance aussi. Et ça va servir à quoi ce déconfinement? Eh bien, David finit comme ça son psaume. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Mes amis, ce psaume, il est eschatologique. Ce psaume, il nous parle de la marche chrétienne, mais il nous parle aussi de notre départ auprès du Seigneur et de la vie éternelle dans la maison de Dieu. Jésus nous a dit qu'il allait nous préparer une place, et David y parle de ça. Il sera dans la félicité totale jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire pour l'éternité. Et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend. Vous savez, la Bible, en général, on dit toujours qu'elle a été faite sur le schéma création, chute, rédemption. Donc, création, rapidement, problème d'Adam et Ève, du péché, et ensuite, tout le reste, c'est l'histoire de la rédemption, tout le plan que Dieu a mis en place pour arriver jusqu'à Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Et ensuite, c'est toute l'histoire de l'Église. Et maintenant, l'Église, c'est toutes les personnes qui ont reconnu ce qui s'est passé à la croix de Jésus et qui le reçoivent comme leur Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le schéma création, chute, rédemption. Mais en fait, la Bible, c'est création, chute, rédemption, nouvelle création. C'est pas fini. C'est pas fini. Et Dieu nous a préparés pour la nouvelle création, pas seulement pour la rédemption, pas seulement pour le salut, pas seulement pour être sauvés, pour la nouvelle création. Il va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Jésus va venir nous rechercher avant que ça dégénère de façon trop grave ici-bas. Mais pour revenir avec lui, pour habiter avec lui et pour revenir. Différemment, avec un corps qui sera différent de celui-ci. Et quand on sera en présence de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va le servir. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Dieu en parle déjà dans l'Exode. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 12, toujours Exode 3, Dieu dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse y reçoit cette révélation sur le mont Horeb, il est sur une montagne. Et Dieu lui dit, vous servirez Dieu sur cette montagne. Là où il y a eu la révélation, là où il y a eu la présence de Dieu. Vous servirez Dieu dans la présence de Dieu. Et plus loin encore, quand il lui dit, t'ira vers Pharaon, et voilà ce que tu vas lui dire. Alors, je commence au verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. En fait, le but de la sortie de l'Égypte, depuis le début, c'était pas juste de sortir de l'esclavage. C'était d'aller offrir des sacrifices à l'Éternel. C'était d'aller servir Dieu sur cette montagne. Alors on sait que quand les Hébreux sont sortis, ils ont ensuite dû apprendre à offrir des sacrifices. Il y a eu le tabernacle, ensuite il y a eu le temple. Il y a eu des vrais sacrifices d'animaux, je précise, des sacrifices d'animaux, pour comprendre qu'un sacrifice est nécessaire pour être pardonné des péchés, pour comprendre tout ce qui touche au sacrifice de Jésus. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Mais le but ultime, c'était d'aller sacrifier. Et nous, maintenant, on ne sacrifie plus d'animaux parce qu'on offre des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Donc, le but depuis le départ, c'est ça. C'est le déconfinement total, ultime. C'est de sortir de ce monde et c'est d'aller dans les parvis, dans la présence, dans le lieu saint, au tout près de Dieu vivant pour lui adresser nos louanges, notre adoration. Ça va être juste merveilleux. C'est sûr que quand on vit des temps de louanges qui ne nous conviennent pas, on va se dire « Oh là 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 là, passer mon temps à louer le Seigneur, mais je vais m'ennuyer. » Quelqu'un qui va voir un match de foot, quelqu'un qui voit sa meilleure équipe avec son meilleur buteur, son joueur préféré qui aime ça, qui suit le match, au moment où le buteur y met un but, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier, ça va être juste la folie totale, la joie. Il va serrer dans ses bras ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, à côté, tout le monde se congratule, même si on ne se connaît pas. Ça va être ça, la louange. Ça va être un élan du cœur. On sera tellement bien dans la présence de Dieu. En fait, Dieu, il ne se révèle pas totalement à nous maintenant parce qu'on ne supporterait pas sa présence. Mais à ce moment-là, on sera transformé, on va la supporter. Et ce sera tellement intense que ce sera... Nos cœurs, mais ils vont bondir de joie. Ils vont bondir de reconnaissance. Ils vont bondir de louange. Parce qu'on verra qui il est. Parce qu'on verra ce qu'il fait. On connaîtra toutes choses. On sera en fait dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce qu'on vit ici, c'est les prémices. Quand on est en joie ici, c'est les prémices. C'est l'ombre des choses à venir. Ah, je pourrais encore aller beaucoup plus loin et le temps a déjà tourné. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Mais moi, j'ai envie de vous dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. On va bientôt sortir de ce confinement. On sera bientôt déconfinés. Et le Seigneur est en train de nous préparer à ça. Il nous prépare pour venir nous chercher. Soyons prêts. Soyons prêts et préparons-nous. Il y a vraiment de la joie. Il y a vraiment de la joie. Il y a vraiment de l'espérance. Et c'est accessible à tous. Il suffit de le désirer. Il suffit de le désirer et de s'approcher du Seigneur. C'est accessible à tous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue. Je te remercie, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes révélations. Merci pour la révélation de ton nom. Tu es le grand Je suis. Tu es le vivant. Tu es Père, Fils, Saint-Esprit. Et tu es un, tu es Dieu. Yahvé, je suis. Adonai, Dieu vivant. Je bénis ton nom. Je te remercie pour ton nom. Seigneur, moi je te demande de bénir chaque personne qui a écouté jusqu'à présent cette prédication. Je te demande que ton Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur, que ton Saint-Esprit fasse descendre cette parole pour qu'ils puissent désirer, ton retour, Jésus. Et que si quelqu'un n'est pas prêt, je te demande de lui montrer comment se préparer, comment s'approcher de toi. Je te demande que chacun puisse, pendant ce temps de Sainte Cène qui va venir, que chacun puisse se remettre devant toi. Que chacun se remette devant toi. Que ce soit pour te donner sa vie. Parce que je sais que tu vas l'accueillir. Ou que ce soit simplement pour t'exposer ses besoins, ou ses manques, ou ses angoisses, ou sa solitude, ou quoi que ce soit. Pour que tu puisses venir rejoindre cette personne. Et que tous ensemble, tu puisses nous aider à nous préparer pour ton retour. Merci Seigneur. Gloire à toi. Toi, le grand Je suis. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.